Merci Anne Fauquemberg, on vous retrouve à 9h pour le journal. Bonjour à toutes et à tous.
This is Bob Woodward of the Washington Post.
Bob est un bon journaliste, un type bien et un rédacteur compétent.
Nous avons quelques informations sur ce sujet par d'autres sources et bien sûr on veut faire des recoupements.
This is terrific stuff. Where did you get it?
Trouvez une autre source. Ben merde.
Ce type est bon. Il est aussi bon journaliste que tous ceux avec qui j'ai travaillé.
Le secret des sources. Frédéric Barrère.
Bienvenue dans le secret des sources et les coulisses de l'information. Quand ça veut pas, ça veut pas. C'est peut-être un peu familier, mais c'est pourtant ce que beaucoup ressentent après l'émission télévisée de François Hollande jeudi dernier sur France 2. Beaucoup, c'est la presse, les Français et les téléspectateurs. Les chiffres d'audience ne sont pas bons. 3,5 millions de personnes ont regardé François Hollande à la télévision jeudi soir. Un flop, nous dit l'Express. L'intervention du président de la République à la télé, il y a 2 mois, avait rassemblé près de 10 millions de téléspectateurs. La presse est extrêmement sévère et parle de cirque télévisuel, de président fantôme, de monsieur ça va mieux. Et régulièrement, dans les articles, on nous rappelle que 8 Français sur 10 ne souhaitent pas que le président de la République soit candidat en 2017. La communication pour les politiques est une question cruciale et le moindre faux pas se paie cash. La communication de François Hollande, on en parle ce matin avec nos invités dans le secret des sources. Marie-Ève Malouine, bonjour.
Bonjour.
Présidente de la chaîne parlementaire Assemblée nationale. Laurent Bazin, bonjour.
Bonjour.
Journaliste, présentateur du 5-7 sur iTélé et vous publiez avec Alba Ventura, le bal des désingueurs, ce que les politiques disent vraiment, les micros fermés, c'est publié chez Flammarion. David Revaud-Dallon, bonjour. Grand reporter au service politique du Monde en charge de l'Élysée et vous avez publié Les guerres du président au seuil. Jean-Marc Four, bonjour.
Bonjour Frédéric Barrère.
Directeur de la rédaction de France Inter et vous venez de publier De la mécanique médiatique, l'info, un service public, une coédition Le Mieux France Inter. Notre regard extérieur nécessaire qui nous accompagne aujourd'hui, Maria Derguerand en duplex avec nous de France Bleu Gascogne à Mont-de-Marsan. Le clin d'œil de la semaine de Yacine Bouzard dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Emmanuel Morse d'Incan. Vos commentaires, vos réactions sont les bienvenus. N'hésitez pas à nous écrire, vous êtes chez vous sur France Culture et dans Secret des Sources.
D'abord, il y a une première chose, c'est que je pense que la communication politique, c'est un outil. Ça ne peut pas être une fin en soi. En politique, comme dans n'importe quelle activité, si le produit est invendable, vous pouvez faire la meilleure communication possible, vous ne réussirez pas à vendre le produit. François Hollande, aujourd'hui, il atteint des records d'impopularité qui font que la communication ne suffit pas à masquer ou à habiller les difficultés, dès lors qu'il y a des difficultés politiques, économiques ou autres. Et puis ensuite, c'est vrai qu'il y a, je pense, une forme de syndrome de la toute-puissance qui fait qu'on pense pouvoir tout se permettre. Et il y a un moment où c'est tellement voyant. Il y a eu le fameux film d'Yves Jolland, où Gaspard Ganzer apparaissait comme la véritable vedette de ce film de fait, et on finissait par se demander qui était le monsieur à lunettes en costume qui courait derrière Gaspard Ganzer. C'était le président de la République. Et Gaspard Ganzer est un grand comique, un grand professionnel, sauf que ça s'est trop vu et à la fin c'est artificiel et ça se retourne contre les intéressés.
Le secret des sources.
Voilà Renaud Dely, que l'on vient d'entendre, rédacteur en chef de l'Obs. Alors est-ce que l'émission de jeudi soir sur France 2, la communication dans l'Élysée attendait beaucoup, est-ce que cette émission s'est retournée contre le président, Marie-Ève Malouine, présidente de la chaîne parlementaire Assemblée?
Alors je vais essayer d'être à contre-courant de tous mes confrères qui trouvent que c'était un échec. Pour analyser une émission, moi j'ai toujours une technique, c'est de dire qu'est-ce qu'ils cherchaient avant. La presse mettait beaucoup la pression sur cette émission. Je suis pas sûre que l'Élysée pensait que c'était l'émission qui allait tout changer. On avait un président complètement déconsidéré, qui n'était plus présidentiel, qui n'était plus entendu. On avait le sentiment qu'il savait pas où il allait, qu'il était déboussolé. Et on attendait un peu l'émission de Chirac disant aux jeunes « je vous comprends pas ». C'est pas ce qu'on a eu. On a quand même eu quelqu'un qui défendait ce qu'il pensait, mais on peut ne pas être d'accord évidemment. Mais il y avait une certaine cohérence dans son propos. Il y avait des propos assez simples et compréhensibles, contrairement à d'autres émissions où on ne comprenait pas très bien ce qu'il expliquait et qui a tenu 1h30 sans faiblir et sans paraître déboussolé et qui a eu des échanges notamment avec les lecteurs du Front National. Que je pense c'était assez intéressant. Au-delà de ça, il y a une très faible audience, donc c'est pas un succès. mais je pense pas non plus que ce soit un ratage total. Et j'ai le sentiment quand même que François Hollande est apparu relativement sincère par rapport à ce qu'il défend. Et encore une fois, on n'est pas forcé d'être d'accord avec lui, mais au moins on avait le sentiment qu'il croyait à ce qu'il disait. Et assez présidentiel, il est resté un président de la République auquel on s'adressait en lui donnant du monsieur le président de la République.
Laurent Bazin dit télé, la presse est extrêmement sévère envers la prestation de François Hollande, avec un bémol de Marie-Ève Malouine. Quand vous voyez les chiffres d'audience très faibles, vous êtes journaliste politique, vous publiez un livre sur les politiques, vous animez une partie de la matinale dit télé, le 5-7. Qu'est-ce que vous vous dites ? La politique n'intéresse plus ? Mon métier est menacé ?
Non, que les journalistes aient des soucis de défiance et de crédibilité, c'est une chose. On en parlera peut-être tout à l'heure. Que le président ait des soucis de défiance et de crédibilité, c'en est une autre. C'est le président de la République, donc c'est sérieux. Moi, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'on a retrouvé un président. En vérité, on avait un président affaibli par la séquence, par 4 ans de pouvoir. Par la séquence calamiteuse de la déchéance de nationalité, puis de la loi travail, y compris affaiblie par la rue, par les quelques milliers de personnes qui reçoivent un écho médiatique considérable, peut-être exagéré, de Nuit debout, à qui il avait choisi de s'adresser. Il avait choisi de descendre de l'Élysée pour venir au musée de l'homme, donc de changer du chef d'État, redevenir un homme, d'une certaine manière, symboliquement. Et cet homme normal, à nouveau, s'adressait à des Français lambda pour discuter avec eux. Et ça, moi, je ne conteste pas cette forme-là. Et pour faire une démonstration d'empathie. Parfois de mea culpa. C'est un spécialiste du mea culpa là-dessus, François Hollande. Il le fait beaucoup avec les journalistes à déjeuner depuis 2-3 ans. Il l'a fait d'une certaine manière hier soir quand il explique que la montée du Front National est sa responsabilité. Bon. Est-ce qu'il sort affaibli de cette émission ? Je ne crois pas plus qu'il n'y est entré, mais je pense en revanche qu'il y avait des coups à prendre. C'est-à-dire que je pense que pour lui, faire cette émission maintenant, il ne pouvait pas y avoir de bénéfice. Donc en vérité, il n'y a que des risques.
David Revaud-Allonne, du Monde, hier au lendemain de l'émission sur France 2. Vous avez accompagné François Hollande lors de sa visite dans l'Oise. Est-ce qu'il s'est confié sur l'émission de jeudi soir ?
Il a lâché quelques mots comme ça au débotté très rapidement. On sent que le contact avec la presse, mais on en reparlera peut-être tout à l'heure, est un petit peu plus verrouillé qu'avant. Lui, il a dit que c'était utile et que ça lui avait permis de prendre de la hauteur. Je rappelle que le message essentiel de l'émission de jeudi soir, c'était « La France va mieux ». C'était un travail de conviction, de persuasion, dirais-je même. Et nous avions une visite sur le terrain qui correspondait à une illustration, une preuve par l'exemple. C'était une usine qui fonctionnait bien, une usine de plasturgie dans l'Oise. Et donc, François Hollande entendait démontrer que ce qu'il avait expliqué la veille face aux Français et aux journalistes était constatable, vérifiable empiriquement sur le terrain. Ça, c'est une chose. Sur l'aspect bénéfique, je suis assez d'accord, ça ne va pas changer grand-chose, ni en positif, ni en négatif. Mais je pense que si François Hollande n'avait pas fait cette émission, il a eu des hauts débats, François Hollande. Il parle beaucoup à la presse, il a quand même eu des séquences, notamment après les attentats de novembre dernier, où il s'est lui-même muselé, je dirais, parce qu'il considérait qu'il ne fallait pas parler. Mais que n'aurait-on pas entendu s'il n'avait pas pris la parole à ce moment-là ? On aurait à ce moment-là accusé le président de se cacher, de ne pas finalement se dévoiler ou de ne pas prendre de risques. Donc, de toute façon, ce jeu-là était perdant. Moi, je trouve que François Hollande a été ni vraiment bon, ni vraiment mauvais. Il a été assez égal à lui-même. Il y a eu plusieurs prestations télévisées où il a été bien plus mauvais. Le problème, c'est qu'il n'en ressort pas grand-chose.
C'est ça.
On a l'impression d'une émission pour rien, même si l'émission... Je crois que l'audience, elle sanctionne autant finalement le manque d'intérêt pour un politique et pour les politiques en général, puisque Nicolas Sarkozy comme Manuel Valls ont été beaucoup... avaient, de mémoire, il faudra vérifier, mais 1 million de téléspectateurs de moins. Autant finalement le désintérêt pour ce type d'émission que pour le politique lui-même. Il y a aussi la mise en scène de l'émission qui était plutôt réussie. Mais je crois qu'à l'arrivée, c'est zéro bénéfice et absolument, finalement, zéro, à part les commentaires de la presse, qui ne sont pas bon, bien sûr, mais je crois que c'est zéro dommage en réalité pour lui. Je pense que ça va se constater dans les études d'opinion dans les prochains jours.
Alors Jean-Marc Four de France Inter, je reviens sur les chiffres d'audience. On a beaucoup parlé de l'émission sur France 2 avant l'émission, bien sûr également après. Est-ce que ces faibles scores d'audience sont l'illustration d'une bulle médiatique qui ne reflète peut-être pas la préoccupation des Français?
Je vais vous répondre de façon détournée, comme un politique, vous savez. je trouve que l'émission nous apprend plus de choses sur la presse que sur François Hollande. Finalement, on n'a pas appris grand-chose sur François Hollande. Enfin, c'est ce que disait David Revaud-Dallon à l'instant. Enfin, c'était ni bon ni mauvais. Enfin, moi, j'ai pas la sensation d'avoir appris grand-chose sur François Hollande. On a en revanche deux confirmations. C'est d'une part ce type d'émission. C'est pas une découverte pour nous, mais quand même, la mise en scène de ce type d'émission est un deal complet entre la presse, en l'occurrence France 2, et la communication de l'Élysée. Bon, je reviens pas sur les controverses qu'il y a eu sur la sélection du panel, mais enfin bon, toutes les modalités de ce type d'émission, c'est calé avec la com de l'Élysée. Ça, c'est un premier point, mais c'est quand même intéressant à relever.
Ça l'a toujours été.
Ça l'a toujours été, mais c'est quand même intéressant à relever. Mais ça l'est plus en télévision quand même.
Hein. Oui, plus bien en télévision. Bien sûr. Ça l'a toujours été.
Nous, on a fait ce type d'émission avec François Hollande à Bruxelles il y a un mois et demi. Il avait les auditeurs en face de lui. Il savait pas sur qui il allait tomber. Hein. Je veux dire, c'était la loterie complète. Hein. Bon, voilà. Donc, c'est pas tout à fait les mêmes modalités. Premier point. Et deuxième point, effectivement, ce qui est frappant, c'est finalement la faible couverture de la presse sur le sujet. Enfin, je veux dire, regardons la presse d'hier, vendredi, sur le sujet. Elle s'en fiche, quoi, la presse, quoi. Et à un moment donné, son diagnostic, c'est Hollande n'a plus rien à dire. Peut-être se trompe-t-elle, d'ailleurs, hein, entre nous soit dit. Mais c'est quand même ça, ce qui en ressort, c'est que ça ne l'intéresse pas beaucoup.
Alors, François Hollande, un président punching ball, c'est le titre du Figaro d'hier. C'est vrai qu'il n'a pas été épargné, on a parlé à l'instant. Je vous propose d'écouter l'échange entre Léa Salamé et le président de la République.
Avec Mme Merkel, nous avons une position identique.
Sur les migrants ?
Oui, identique.
C'est une plaisanterie ?
Non, je ne parle pas qu'il veuille plaisanter sur ces sujets.
Mais on a
Madame, la Mme Merkel, elle a assuré, elle a à un moment pensé que c'était son devoir. Il y avait cet afflux de réfugiés, de migrants. Un million.
Vous en avez pris, nous, la France, 6e puissance mondiale, nous en avons pris 30 000.
Oui, pas encore d'ailleurs. Vous, tout à l'heure, nous avons parlé du droit d'asile. Là, pour les 30 000, il s'agit
des réfugiés. Vous avez le sentiment d'avoir eu la même philosophie que Mme Merkel sur cette question-là ?
Mais il s'est trouvé, c'est ainsi.
Voilà, Léa Salamé, l'une des trois journalistes qui interviewait François Hollande jeudi soir. Il y avait également un panel, les quatre Français qui ont interrogé le président en lui coupant parfois la parole. Un dialogue de sourds, nous dit le Figaro. Est-ce que le président a été interviewé normalement et est-ce que ce débat a servi, Marie-Ève Malouine?
Ce genre de débat, moi, à regarder hier, j'étais plus intéressée par les échanges avec les Français qu'avec les journalistes. Et pourquoi ce genre d'émission, on cherche à aller chercher les Français? Parce qu'on était plus satisfait des questionnements des journalistes. Et là, on l'avait vraiment en plein. C'est-à-dire que parfois, les intervenants, les Français, étaient interrompus par des journalistes. Et donc, leur couper la parole alors que c'est eux qu'on avait envie d'entendre. Et l'échange était plus sincère quand c'était entre les Français et François Hollande que les questions des journalistes ou cette réflexion de dire « vous plaisantez, c'est une plaisanterie ». Quand on est devant sa télé, chacun a son avis, on n'a pas besoin d'avoir quelqu'un qui l'exprime comme ça et qui est dans un jeu personnel dont on se sent un petit peu, moi je trouve, exclu dans ce cas-là.
Il n'empêche que ce qu'on a vu aussi au lendemain de l'émission, c'est que cette formule dont vous parlez et que l'on vient d'entendre, c'est une plaisanterie de Léa Salamé, a été extrêmement commentée.
Là, en l'occurrence, ce que tout le monde attendait dans la petite planète journalistique, c'était la prestation de Léa Salamé qui est promise à l'animation de la grande émission politique de France Télévisions l'année prochaine en année présidentielle. Donc passerait-elle le cap? Ferait-elle sa mue et sa métamorphose?
Vous êtes en train de nous dire c'était l'émission pour Léa Salamé?
Non, je suis en train de dire que les journalistes regardaient ça. Ouais. Et que donc, naturellement, ils ont commenté ça. Quand vous regardiez le fil Twitter des journalistes, toujours passionnant, vous regardez des commentaires sur François Hollande, qui sont parfois de très bon sens, parfois de mauvaise foi, parfois de... Peu importe. C'est des jugements, c'est de l'éditorial d'une certaine manière. Et puis, vous avez une part considérable de commentaires sur « Oh là là, Pujadas a pris un coup de vieux »,« Léa Salamé, ah oui, elle est pugnace un peu trop agressive, trop ceci, trop cela. » Vous savez, c'est comme la pub de la vache qui rit, d'une certaine manière. Donc, tout le monde a son avis sur la question. Voilà, ça, c'est le petit buzz journalistique. Les Français s'en moquent. comme de leur première chemise. Ils ont déjà du mal à s'intéresser à ce que le président de la République a à leur dire. En vérité, ils se moquent de savoir si Léa Salamé a été bien ou pas. Ils la regarderont l'an prochain si elle est là et probablement elle y sera, avec ou sans David Pujadas. C'est même pas le sujet. En vérité, je pense qu'on se trompe de question. La question de cette interview, c'était pas les journalistes qui interrogeaient, puisqu'en plus, ils n'ont pas eu la plus grande part de l'émission, mais bien les citoyens. Ce qui, moi, m'intéresse d'ailleurs, parce qu'on tourne autour de ce type d'émission de dialogue entre les politiques et les citoyens depuis presque 10 ans, 15 ans maintenant, et on a beaucoup de mal d'ailleurs à les faire émerger parce que c'est toujours très compliqué. Parce qu'il y a des effets de masse. Quand un citoyen a mis en difficulté le président de la République, le suivant se sent obligé, par exemple, de se comporter de la même manière. Quand la chef d'entreprise s'autorise à interrompre le président de la République, à lui couper la parole, il faut savoir que c'est assez facile avec François Hollande. Parce qu'il vous laisse faire, en vérité. Moi, il nous est arrivé dans ce studio à tous de faire des interviews de François Hollande. François Hollande, c'est pas quelqu'un qui vous met à distance et qui vous boxe. Nicolas Sarkozy est comme ça. Vous l'interrompez, il vous boxe immédiatement. François Hollande, il vous laisse faire. Donc, naturellement, les citoyens qui étaient là sont installés dans un dialogue et dans une discussion avec le président de la République. Mais à partir du moment où la première, la chef d'entreprise, avait instauré ce mode de dialogue et donc désacralisé d'une certaine manière le président en disant « Ok, on peut lui parler comme ça, très bien, tout le monde lui a parlé comme ça ». Alors ça peut donner l'impression qu'on a fait descendre le président de son piédestal, moi je partage.
On peut désacraliser peut-être la fonction présidentielle.
Oui, mais elle l'est déjà, en vérité c'est ça. On se l'autorise parce qu'elle l'est déjà, et c'est pas seulement la faute de François Hollande en l'occurrence. C'était déjà un peu le cas sous Nicolas Sarkozy.
Je suis pas tout à fait d'accord. Parce que les gens l'interrompaient, mais ils se laissaient faire. J'ai pas eu le sentiment de gens qui l'agressaient.
Non.
Hein, et j'ai entendu des gens qui étaient, excusez-moi de vous couper, mais je voudrais préciser, et qui l'appelaient Monsieur le Président. J'ai entendu Monsieur le Président de la République. Et justement, je trouvais que c'était plus un échange, une discussion où on s'interrompt un petit peu.
D'égal à égal. Vous voyez ce que je veux dire?
D'égal à égal. Mais c'est pas désacralisé. C'est un autre style de présidence. Dans les pays anglo-saxons ou ailleurs, il n'y a pas ce côté en France où le président parle et tout le monde l'écoute. Et c'est différent de la désacralisation qu'on a pu avoir avec d'autres présidents de la République qui se plaçaient sur un terrain. Alors là, différent. Là, je trouvais que le dialogue, même s'il y avait des interruptions, restait respectueux. À la différence des remarques de Léa Salamé, qui était plus « je vous coupe la parole et je vous assène quelque chose et vous dites oui ou non ».
Pour les journalistes, avec l'extrait qu'on a entendu de Léa Salamé, pour les journalistes, montrer qu'on s'affronte au président, qu'on est sec, direct et qu'on veut des réponses, est-ce que c'est pas aussi un peu pour tordre le cou à la connivence, Jean-Marc Faux?
Ben oui, moi je vais m'inscrire un peu en faux par rapport à ce que dit Marie-Ève Malouin tout à l'heure. Je vais prendre la défense de Léa Salamé parce que c'est aussi une journaliste de France Inter. Non, c'est pas pour ça que je dis ça. C'est juste que ce type de mise en scène avec le choix du panel de citoyens, quelque part, dit quelque chose de nous, journalistes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est en train d'entériner le fait que oui, on est conscient que nous-mêmes, on est un peu coupé du pays réel et donc on laisse le pays réel s'exprimer et interpeller directement le chef de l'État. Donc on accepte cette idée qu'on est coupé du pays réel. Mais si on est coupé du pays réel, c'est aussi parce que, pardonnez-moi, mais par le passé, il y a eu des interviews de chefs de l'État quand même légèrement complaisantes, en particulier à la télévision. C'est-à-dire où on ne fait pas de droit de suite sur la question, on ne fait pas de follow-up, comme on dit en anglais. Voilà, donc on laisse faire. Et ça, c'est un défaut quand même qui n'existe pas, par exemple, à la télévision britannique, de longue date, où là, on est beaucoup plus punchy. Si vous voulez, la question de Léa Salamé hier soir sur « c'est une plaisanterie », c'est une question britannique. Voilà, c'est Jeremy Paxman à la BBC qui interrompt Tony Blair pendant la guerre en Irak et qui va le chercher au bout du bout du bout. Bon, c'est peut-être aussi ça qu'il faut faire, parce que si on le fait pas, ben quelque part, de fait, on entérine l'idée que on n'ose pas poser les vraies questions.
Alors, David Roubaud-Dallon et Marie-Ève Malouin ensuite.
Juste
David.
Une très brève remarque pour rebondir sur ce qui vient d'être dit. Hier matin, lors de la visite sur le terrain de François Hollande qui suivait cette émission, l'Élysée expliquait à ceux qui voulaient l'entendre qu'au vu des polémiques des derniers jours sur la façon dont France 2 s'était accommodé finalement des desiderata et des exigences élyséennes, la communication de l'Élysée expliquait « Ah bah vous avez vu, François Hollande, c'était assez musclé face aussi bien aux citoyens et citoyennes qu'à Léa Salamé, on ne peut vraiment pas dire que c'est une émission arrangée et complaisante ». Donc ça devenait finalement un argument pour prouver, je dirais, le risque, l'intensité du risque politique qu'avait pris François Hollande en se rendant sur ce plateau.
On rejoint ce que dit Jean-Marc, c'est que les journalistes se mettent en scène dans ce genre d'émission pour dire « je suis penché et je rentre dedans ». Mais la question sur Merkel et l'Allemagne, si on n'est pas au courant de la déclaration de Valls qu'il est allé faire en Allemagne, on ne comprend rien. Puisque la question, elle ne resitue pas le factuel, elle ne resitue pas les éléments. Elle est là juste pour dire « j'ai contré le président ». Quand François Hollande parle du chômage et qu'elle le coupe plusieurs fois, « donc c'est un échec, donc c'est un échec ». c'est chercher la petite phrase, c'est pas chercher une information. Et moi, ce qui m'a frappé entre les questionnements des citoyens et des journalistes, c'est qu'on n'est pas sur le même registre. Les citoyens sont beaucoup plus précis et parlent de choses beaucoup plus concrètes.
Les journalistes parlent de leur vie. Les citoyens interviewent mieux que les journalistes.
C'est de savoir quand est-ce qu'Hollande va se présenter, va dire qu'il va se présenter, lui faire dire.
Oui, mais c'est une question rituelle qu'on a posée pendant 5 ans à Nicolas Sarkozy.
Moi, je pense que les gens, ça les intéresse plus. On est d'accord.
Et en revanche, quand on met des citoyens face à un président, forcément, ils sont plus en valeur que les journalistes pour une raison toute simple. Ils parlent d'eux.
Mais ils parlent
de choses qu'ils connaissent sur le bout des doigts, mais concrètement, un journaliste est forcément... Vous voyez ce que je veux dire ? Un journaliste peut travailler avec ses dossiers.
Il peut travailler ses dossiers, mais pour que ces dossiers soient dans le concret et non pas sur des questions politiques.
Il faut quitter le périphérique de temps en temps pour ça.
Les commentaires sur les Assamé auraient été aussi agressifs qu'on pouvait l'imaginer. Tout ça, c'est à l'intérieur du périphérique, la presse parisienne, qui est dans quelques arrondissements, qui ne va pas trop non plus en dehors des arrondissements centraux de Paris.
Oui, juste sur ce point effectivement, cette question de Léa Salamé, vous avez raison, il y a sans doute une quête, on va dire, de respectabilité, de crédibilité. Mais sur le fond, elle a tout à fait raison de reprendre François Hollande quand il explique que Merkel et Hollande ont appliqué la même politique et de rappeler ces chiffres qui sont sans appel. 1 million de réfugiés en Allemagne en 2015, 30 000 chez nous qui ne sont pas encore arrivés. Donc c'est aussi un élément factuel. Je pense que les deux se mêlent. Il y a de la tactique journalistique et puis il y a un travail de fond.
Le secret des sources.
Le secret des sources sur France Culture, la com de François Hollande avec nos invités Marie-Ève Malouine, Laurent Bazin, David Revaud-Dallone, Jean-Marc Four. Et je me tourne vers Mande Marsan et Mariette Darigrand, sémiologue en duplex de France Bleu Gascogne. Mariette Darigrand, François Hollande qui a l'image d'un homme anti-conflit, se trouve confronté à une violence qui vient de tous les côtés. On avait l'image d'un président sous la pluie en début de quinquennat. Il est maintenant pris dans la tempête.
Oui, moi j'étais quand même un petit peu étonnée par le choix qu'ont fait les communicants, parce que de fait c'était pas une émission politique, c'était une émission de mise en scène de com, hein, je crois que c'est vraiment le... Alors ils ont fait le choix de nous montrer le président normal, si normal qu'il est carrément en dessous du citoyen, enfin il était vraiment une sorte de punching ball du citoyen hier. Donc je me pose la question, parce que ça fait des semaines, hein, depuis les attentats de novembre, que c'est plutôt la posture grandiose du président chef de guerre que nous avions. Et là, hier, c'était, je dirais, presque un président de la domesticité, voire lui-même un peu mis dans cette posture de service, hein, au service du citoyen. Donc un homme de devoir qui n'avait plus aucun panache, hein, sauf à la fin, mais c'était une sorte de cosmétique. Et ça venait vraiment comme un cheveu sur la soupe, de même que le musée de l'homme était complètement un lieu sans intérêt, alors que symboliquement c'était très fort. Eh bien, à la fin, on a eu droit au fait qu'être président, c'est avoir un lien avec l'histoire, avec le tragique, ce qui est vrai. Dans les faits, je pense, pour François Hollande. Mais là, il s'est, pendant plus d'une heure, une heure et demie, prêté, de manière qui m'a paru presque sadomasochiste, au cou de tout le monde. Et puis, il a tenu. Voilà. Donc, si c'est ce trait d'image que les communicants ont voulu nous montrer, oui, c'est un président qui tient dans la tempête.
Ouais. Laurent Bazin.
C'est exactement ce que Gaspard Ganzer, le directeur de la communication de l'Élysée, a théorisé à son arrivée au printemps 2014 et qu'il met en œuvre depuis, à travers des déjeuners qui ont été organisés, j'allais dire ritualisés, mais c'est pas le mot parce que je reviendrai au sacré, je m'en suis éloigné volontairement tout à l'heure, mais en tout cas organisés régulièrement avec les journalistes, tous je pense autour de cette table, on s'est un jour assis avec le président de la République à l'Élysée, ce qui peut interpeller quand même nos concitoyens à un moment, et c'est toute sa démonstration de communication, c'est de dire que effectivement François Hollande, sa principale qualité, c'est qu'il tient le coup. Il nous dit, François Hollande, dans un déjeuner qu'on raconte dans le livre avec Alba Ventura, il nous dit par exemple, il raconte une visite à Angoulême où il est dans un foyer de jeunes autistes et il y a un petit autiste qui est agacé dans un coin, qu'il voit un peu prostré comme ça, il va le voir, parce qu'il est profondément empathique, François Hollande, il triche pas là-dessus. Il va le voir et il lui dit qu'est-ce qui se passe, et cet adolescent, je crois que c'est un très jeune adolescent, c'est François Hollande qui raconte l'anecdote, hein, à table, lui dit « Oh mais ça m'agace, et je n'arrive pas à me calmer. »
Quand il y a trop de monde, c'est ça ?
Quand il y a trop de monde. Et François Hollande lui dit « Oh tu sais, j'ai décidé que rien ne m'agace, c'est ça le secret. » Donc le premier secret de François Hollande, il a décidé que rien ne l'agace. C'est-à-dire que c'est effectivement un président dans la nuée des critiques et qui ne s'agace pas. C'est vrai. Ça se voit, il s'est rarement agacé, un peu lors de la conférence de presse de la présidentielle de janvier.
Sur les questions des journalistes.
Mais on a le droit de s'agacer un peu contre les journalistes.
C'est devenu
autorisé. Mais en tout cas, c'est ça. Et la deuxième chose, si Gaspard Ganzer met en œuvre ce qu'il appelle, lui, la stratégie des déjeuners que je vous racontais tout à l'heure, c'est justement pour montrer, on est en 2014, ça va très mal, le président est à 12%, aujourd'hui il est à 13%. Et les papiers, les articles des journalistes décrivent un président prostré, abattu, des agacements justement, ça ne va pas, etc. Et Gaspard Ganzer dit en fait, il faut que les journalistes viennent à l'Élysée voir le président de leurs yeux, parce qu'ils verront que François Hollande n'est pas un homme qui s'agace, n'est pas un homme abattu, c'est un homme qui résiste. Et c'est pas faux. Quand vous le voyez, ça n'est pas un homme abattu. Ça n'est pas non plus un homme pugnace. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'a pas cette tonicité, cette agressivité que pouvait avoir Nicolas Sarkozy, y compris dans le bon sens du terme. Mais voilà la démonstration. Donc on est vraiment au cœur de la démonstration. Et l'émission d'hier, elle est au cœur de la démonstration de Gaspard Ganzer. Voilà l'émission de jeudi. Et elle est au cœur de cette démonstration-là. Et d'une certaine manière, moi je trouve qu'elle a montré la limite du théorème de Ganzer, c'est-à-dire il faut montrer que le président est un homme qui ne s'agace de rien et qui résiste. Ça ne suffit plus de résister. En tout cas, pas pour être réélu dans un an.
On peut rester en place avec 13% dans les sondages.
On peut rester en place, évidemment. François Hollande, il a une force, c'est sa capacité à encaisser. Il a toujours encaissé. À la tête du Parti Socialiste pendant 10 ans et surtout pendant ces 5 dernières années, il a été, je dirais, la cible de toutes les avanies, de toutes les trahisons, de toutes les humiliations de la part de ses camarades. Une fois qu'il a quitté le premier secrétariat, souvenez-vous, c'était Monsieur 3%, objet de raillerie. Il a réussi à être élu et forcément, ça crée une disposition psychologique particulière qui est que rien ne pourra l'atteindre et que même si les sondages sont en dessous de la ligne de flottaison, même si la séquence est abominable, même si les couacs semblent revenir, même si entre la déchéance, le remaniement raté et la loi El Khomri, je crois qu'on peut envisager que c'est la pire des situations, il croit toujours en sa bonne étoile. Et d'ailleurs, la séquence qu'il ouvre, les 3 mois qu'il ouvre, il considère qu'il a aujourd'hui 3 mois pour reconquérir l'opinion et envisager une candidature.
Avec une date butoir, la fin de l'année.
Oui, pour la
qui est une demi-réponse à la question qu'on se pose depuis 2012 à peu près, hein, depuis son élection. Va-t-il se représenter?
Oui, ça c'est les journalistes qui se la posent. Oui, les Français, ça ne sont jamais posés.
Nous journalistes,
on se demande s'il va se représenter depuis qu'il est élu, mais on fait le coup à chaque président. Vous avez raison, oui. Donc on a posé la question, on a une réponse, et on saura avant la fin de l'année. C'est-à-dire si on s'en amuse un tout petit peu 2 secondes, on saura. Quand les socialistes auront terminé leur primaire, si j'ai bien compris le calendrier socialiste, c'est ça?
En décembre? On ne sait pas grand-chose.
Non, mais pour rebondir sur ce que dit Laurent Bazin, c'est toujours cette histoire. Les journalistes rêvent d'être Madame Soleil. Oui, c'est une espèce de fantasme d'astrologie, d'avoir une boule de cristal. On veut savoir avant, mais...
On est très conscient dans le question. On est très conscient dans le question.
C'est sans moque. Enfin, je veux dire, de savoir avant, on saura quand on saura. Et puis voilà.
Le quinquennat, maintenant, c'est quand même la première année. Donc c'est la première année. Qu'est-ce qu'il a fait? La deuxième année, premier bilan. Et dans la troisième année, on bascule à l'année d'élection suivante, moins 2,5, 2,1. Et on est obnubilés, les journalistes, par cette élection.
Avec le compte à rebours qui a commencé.
Là, quand on analyse l'élection, l'émission, c'est de dire cette émission par rapport à 2017, on peut analyser l'émission par rapport à maintenant. Et puis, on verra la suite.
C'est ce qu'il a dit d'ailleurs,
c'est d'autant plus crétin que la présidentielle en France, ça se joue dans les 3 derniers mois, c'est à chaque fois le même coup.
Alors pourquoi François Hollande a-t-il besoin de dire qu'il nous le dira d'ici la fin de l'année? Il n'en a pas besoin. C'est lui qui, jeudi, a enclenché le compte à rebours, en vérité, de son annonce de se représenter ou pas. Il n'en a aucune obligation. Jacques Chirac l'a fait en mars, Mitterrand l'avait fait en février. Aucune obligation.
Simplement, il
vient de créer,
il vient
d'armer le suspense.
Entre Noël et le point de l'an.
Les doivent s'organiser aussi, s'il n'est pas candidat, pour que quelqu'un prenne la place. Et 3 mois avant, ce sera un peu court.
Pensez-vous vraiment qu'il ne sera pas candidat?
David O'Dallon, tout petit mot.
Non, évidemment, il sera candidat, mais lui-même, souvenez-vous, il y a un mois et demi, je crois que c'était sur France Inter, avait expliqué, puisqu'il ne peut pas s'avancer, explique qu'il gouverne et qu'il ne pense absolument pas à la candidature, je peux être candidat, je ne peux ne pas être candidat. Et ceci avait produit quand même un effet assez délétère sur le plan de la psychanalyse politique à gauche, puisqu'à ce moment-là, ça avait un petit peu ouvert à la fois les vannes et la boîte de Pandore, et que forcément, tout le monde s'était demandé s'il pouvait être candidat, qui pouvait être candidat, et si bien sûr, il fallait faire une primaire. Donc François Hollande est lui aussi sommé de donner des signes pour... par ses camarades.
Mais vous nous dites, David O'Dallon, il sera candidat.
Moi, je prends ce pari, je le répète régulièrement, et je crois que
ça veut dire que le chômage va baisser.
Ça veut dire qu'il y aura probablement quelque chose qui ressemblera à une inversion de la courbe de chômage, c'est-à-dire qu'il cessera d'augmenter. Attendez,
c'est pas non plus... voyez ce que je veux dire ? Mettez-vous à la place d'une famille française qui compte un ou deux chômeurs dans ses rangs, ce qui est une moyenne raisonnable, ouais. c'est pas non plus le plein emploi.
Ouais.
Sitting on the top of the roof, the bridge is on mine, steam engines roll by, the bridges fall down, and so do my dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, young man, I'm counting on you. Boy, I didn't make it too far, but baby, you are the family star. I'll tighten your seams, don't lose your head of dreams. Boy, you hear me calling your name, the bridge is your time, your engine rolls hot, if the bridges fall down, don't lose your head of steam. Young man, I'm counting on you, and whoa, whoa, young man, I'm counting on you to get me to the other side. Hey, 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 hey.
Et Laurent Bazin avait reconnu, même avant la désannonce, Gregory Porter, l'auteur, compositeur, chanteur américain, Don't Lose Your Steam. Alors, on va prolonger ce débat avec vous, Jean-Marc Four, directeur donc de la rédaction de France Inter, pour votre livre de la mécanique médiatique, qui est une sélection de vos chroniques, La mécanique médiatique, chaque vendredi sur Inter à 7h20. Jean-Marc Four, avant de prendre la direction de la rédaction d'Inter, vous étiez à France Culture, également directeur de la rédaction, et vous avez créé cette émission, Le secret des sources.
Ça me fait bizarre d'être là. Hein.
Un petit rappel sonore.
Je dis que quand un journaliste, il n'en sait pas plus que ça, il devrait être autorisé à fermer sa gueule.
Tous les samedis matins jusqu'à 9h sur France Culture, on va donc s'efforcer ici de vous emmener dans les coulisses de l'information pour vous raconter autour de ce secret des sources qui est une pierre angulaire de notre métier, vous raconter comment se fabrique l'information chaque semaine. Pour ce numéro 1, nous accueillons Gérard Lavey, grand reporter
nostalgie. Au monde. Expliquez-nous, Jean-Marc, votre cheminement jusqu'à cette émission. Vous nous dites que vous êtes beaucoup interrogé sur la façon dont la presse, et vous également, avez traité des sujets bien précis en 2002. Richard Durne, qui a ouvert le feu sur des élus à Nanterre et en pleine campagne pour l'élection présidentielle de 2002. Et il y a aussi Paul Voise, ce vieux monsieur avec le visage tuméfié qu'on a vu partout. Et puis, le 21 avril, et là, vous nous dites, c'est une cicatrice professionnelle. Est-ce que c'est à ce moment-là que naît l'idée de l'émission ? En tout cas, l'idée de s'interroger un peu plus sur la façon dont nous travaillons.
Je ne suis pas le premier à dire ça maintenant. Hein. Je pense qu'effectivement, en 2002, il y avait des éléments objectifs dans la société française qui ont aussi évidemment fait que Jean-Marie Le Pen s'est retrouvé au second tour. C'est une évidence. Mais néanmoins, les médias ont participé. Il y a eu, dans la période qui a précédé, je cherche pas du tout à me dérober. Moi, je présentais le journal Le 13h sur Inter. Donc voilà, j'ai en plein dans la fabrication de l'info. Hein. Ces faits divers que vous citez là, effectivement, on les a mis en exergue, alors que rétrospectivement, enfin, honnêtement, il valait pas tripette. Enfin, je veux dire, c'était des choses qui étaient révélatrices de rien du tout. Dans la plupart des cas, on s'est aperçu après coup qu'en fait, il s'était pas passé grand chose. D'ailleurs, les poursuites ont été abandonnées.
C'est enfin, vrai que le cas de Papouas, en particulier, au regard de ce qu'on a pu observer en fait divers aujourd'hui, ne méritait pas ce traitement.
Et on en a fait, comme on dit vulgairement dans notre métier, des caisses. Enfin, je veux dire, on en a fait des ouvertures de journaux, des analyses dans tous les sens, des comparatifs avec les pays voisins, tout ce que vous voulez. Enfin. Et on a malgré tout alimenté cette boîte à fabriquer le sentiment d'insécurité. Voilà. Et c'est l'un, pas le seul. Encore une fois, je pense pas ça, mais c'est l'un des paramètres qui explique la présence du Front National au second tour en 2002. Enfin, moi, j'en suis intimement convaincu. Et c'est vrai qu'à partir de là, je me suis dit, on a quand même une responsabilité sur la façon dont on travaille. Il faut peut-être qu'on s'interroge au jour le jour, en permanence, sur la façon dont on met en évidence certains sujets plutôt que d'autres, et comment parfois on se laisse embarquer dans des espèces de spirales qui sont dont on n'a même pas conscience sur le moment et qui en fait nous conduisent dans des endroits où on devrait pas aller. Enfin voilà, on fabrique des objets qui sont des espèces de soufflets qui retombent et qu'on oublie après. Alors que on aurait mieux fait de se poser la question au premier instant. Quoi. Voilà, c'est ça un peu mon interrogation.
Marie-Malouine, présidente de la chaîne parlementaire.
Le 21 avril 2002, c'est quand même un moment qui a marqué beaucoup de journalistes politiques. On ne peut pas être journaliste politique et ne pas se poser de questions sur ce qui s'est passé. Mais il y avait Papivoise, il y avait aussi des angles. Je sais que pendant des semaines, on se demandait qui serait le troisième homme. Mais au point que certaines personnes pensaient qu'il y avait trois candidats au second tour. Et j'ai l'impression qu'on recommence un petit peu avec la polémique du jour, avec des débats politiques et dans la hiérarchisation de l'information politique, à mettre en exergue des événements qui ne valent pas l'ouverture, qui ne valent pas autant de mise en avant, d'encre, et qu'on oublie parfois un petit peu l'essentiel.
Jean-Marc Faure, les trois dangers à éviter, les trois pièges.
Voilà, mais il y en a plein. Puis surtout, je ne veux pas donner l'impression de donner des leçons. Je ne suis pas du tout procureur. C'est vraiment pas mon idée.
C'est une position particulière comme directeur de la rédaction.
Oui, c'est juste de comprendre comment on bosse. Voilà, c'est tout. Et parfois, d'essayer de m'arrêter deux minutes, et de dire mais comment on en est arrivé à faire. Je vais prendre un tout autre exemple, vraiment, parce qu'on là, qu'on parle que de politique. Mais prenons un exemple extrêmement différent. Souvenez-vous, le virus Ebola.
Oui.
Parce que c'est un truc qui est absolument spectaculaire. Donc, virus Ebola en Afrique de l'Ouest, il y a deux, trois pays essentiellement concernés, la Guinée, Sierra Leone, etc. Bon, très grave là-bas, très grave. On est bien d'accord là-dessus. Il y a eu de la rumeur, il n'y a pas d'autre mot, rumeur qu'il y aurait un cas en Espagne et après en France. D'accord ? Ouverture de journaux, breaking news, tout ce que vous voulez. Il y en a partout des caisses.
Sur l'avion.
Bon, si on écoute les médias, on se dit, oula, je me calfeutre chez moi, je barricade tout, je mets mes enfants dans leur lit, je leur mets des couvertures dessus, etc. Et au bout du compte, rien. La vérité, c'est qu'il n'y a pas eu un cas avéré. Zéro. Rien du tout. Et là, on se dit, on n'est pas raisonnable, quoi. Voilà, on n'est juste pas raisonnable.
Ebola qui fait moins de morts que le paludisme.
Oui, bien sûr, mais beaucoup moins de morts que les piqûres d'abeilles.
C'est pas l'absence de mobilisation en Afrique contre le virus.
Mais absolument, le vrai sujet était là.
C'est pas une petite affaire, mais oui. Ce qui est ridicule, c'est le gros plan sur l'avion qui arrive avec peut-être.
C'est ça.
C'est ça, c'est sûr. Moi, ce qui me frappe dans notre fonctionnement journalistique, je travaille sur une chaîne d'info, donc on y est particulièrement. Est sensible et ça demande particulièrement de précaution chez nous parce que quand on met une info à la une, elle passe 19 fois en la journée ou 20 fois ou 25 fois en la journée en boucle. Donc on a l'impression justement d'une mise en boucle de l'info. Moi, c'est ce que j'appelle l'effet feuilleton. Il y a eu un effet feuilleton, par exemple, sur la déchéance de nationalité où on s'est perdu de vue. Nous, journalistes, disons-le clairement, on vient de passer 4 mois à faire un BINS de la déchéance de nationalité, qui est un moment important. Il y a un serment de Versailles, le président de la République va à Versailles, il annonce cette mesure symbolique, c'est important, ça se traite ce jour-là. Après, on en a fait l'alpha et l'oméga de la vie politique. On ne parlait que de ça lors des déjeuners en ville. On s'est éloigné de la principale préoccupation des Français, qui reste, quoi qu'on en dise, le chômage. Et donc, il y en a d'autres, des préoccupations concrètes des Français. Mais si on a des citoyens qui viennent tout d'un coup à la télévision, en vérité, remplacer les journalistes dans l'interpellation du chef de l'État, c'est parce qu'à un moment, les journalistes ont oublié de s'occuper des questions qui concernaient les Français.
Avec un... Aussi, je pense pour les journalistes, les chaînes d'infos continues, radio, télé, la presse écrite qui court derrière et qui en arrive à faire la même chose, c'est qu'on se rassure aussi en disant que les autres le font.
Oui.
La déchéance...
L'effet perroquet dont vous parlez,
la déchéance, c'est parti de la presse qui, après... Parce qu'après Versailles, personne dans les politiques n'a protesté. C'est la presse qui a commencé à prendre ce sujet en disant que François Hollande devait changer d'avis. Il ne l'a pas fait. Donc la presse a commencé.
Ce sont ses amis socialistes qui ont commencé à dire qu'il devait changer d'avis.
Ah, pas tout à fait. Si on regarde, pas tout à fait. C'est le Monde qui a commencé en premier à dire que c'était un vrai problème et que c'était pas une bonne idée. Et donc après, on pensait qu'il allait changer d'avis. Bon, on va pas refaire toute la genèse. Mais pour arriver à la fin, les mêmes qui ont fait les papiers en disant 4 mois là-dessus, c'est un scandale, ça n'intéresse personne. Bon, enfin, c'est quand même pas l'Élysée qui a fait les papiers. C'est quand même les journalistes qui les ont fait. Le débat a été lancé de cette façon-là. La presse l'a entretenu et les politiques se sont engouffrés dedans. Vous savez comment sont les députés à l'Assemblée. Moi, à la chaîne parlementaire, je suis bien placée pour voir comment ça fonctionne. C'est que les députés qui sont dans la majorité n'ont pas grand pouvoir avec le quinquennat et l'inversion du calendrier.
Donc un sujet comme...
Voilà. Donc là, c'est un sujet qui pouvait commenter. Et après, troisième étape de l'histoire, on peut dire que c'est une histoire dont on a trop parlé, dont les politiques ont trop parlé. Et ça continue encore l'histoire. Résultat, on a 4 mois là-dessus qui n'intéressent personne. Oui. Avec juste ce petit mot, je voudrais vraiment qu'on y fasse attention.
Oui, parce que la réponse du Monde, quand même, après, avec David Revaud-Allen.
Non, mais j'attaque pas le Monde. Oui. Simplement, ce que je veux dire, c'est que dans la presse, il y a un côté, on se rassure en étant comme les autres. La déchéance, il n'y a pas un journal qui pouvait se permettre de dire non, ça nous intéresse. intéresse pas, on ne traite pas.
Il y a des matins où, on a décidé de ne pas le traiter parce qu'on s'est dit clairement, ça suffit.
On est très moutonnier.
Ça arrive régulièrement sur France Inter, sur France Culture.
Mais c'est vrai qu'on est moutonnier. Oui, ce côté moutonnier.
David Revaud-Dallon, du Monde.
Panurgique, qui correspond d'ailleurs à ce que Bourdieu avait appelé la circulation circulaire de l'information, dans laquelle nous tournons tous en rond.
Que Coluche appelait les milieux autorisés.
Les milieux autorisés. Les milieux autorisés. D'ailleurs, c'est une très bonne formule puisqu'elle définit finalement cette coproduction journalistico-politique. Prenons l'exemple de la déchéance de nationalité qui était une mesure approuvée de mémoire par 85% des Français quelques jours après son annonce, un peu plus de 90% des Français. On aboutit 4 mois plus tard à un désintérêt total. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, il y a eu toute une série de jeux tacticiens et politiciens aussi bien à gauche qu'à droite. Les concurrents de Nicolas Sarkozy à droite n'entendaient absolument pas lui faire cette fleur que de soutenir ce texte, cette mesure qu'il avait lui-même soutenue. Et bien sûr, à gauche, on a, du côté des frondeurs, cherché à savonner la planche de François Hollande. Donc à l'arrivée, 4 mois de jeux tacticiens, de chroniques, sans doute avec le recul beaucoup trop importante en termes de place, de longueur, que sais-je. Mais c'est un élément extrêmement classique. On avait vécu ça au Parti Socialiste à l'époque du congrès de Reims, souvenez-vous, où il fallait absolument que ce congrès tourne finalement à la guerre civile, au massacre de la Saint-Barthélemy entre socialistes. Et ce qui était précisément arrivé, parce que les journalistes le souhaitaient, parce que les socialistes avaient aussi, bon, au-delà des luttes de pouvoir et des enjeux, donné aux journalistes ce que ceux-ci voulaient avoir. Donc je crois que la responsabilité est absolument partagée.
Mariette Darigrand, en duplex avec nous. Mariette, sémiologue, c'est vrai que nous, journalistes, parlons beaucoup de liberté. Il faut aussi peut-être se poser la question de la responsabilité de la presse.
Bah, écoutez, c'est une question que les journalistes ne se posent pas tout de suite. En général, ils parlent, et ils ont raison, de leur mission noble et donc de la liberté d'expression du quatrième pouvoir, etc. Mais là, Jean-Marc Four, ce qui m'a intéressé dans sa démarche, mais nous connaissons bien sûr, puisque nous avons souvent réfléchi ensemble dans cette émission, c'est cette question de la responsabilité, c'est-à-dire de la parole, c'est-à-dire des effets produits par ce que l'on dit. Le journaliste souvent se défend son droit à parler et son intention contre, si vous voulez, la réception, en disant « je n'ai pas à me préoccuper de ce que les gens font après, de ce que j'ai dit, moi je fais mon métier ». Or là, Jean-Marc se pose la question de l'effet produit sur le récepteur. Et ça, c'est absolument crucial aujourd'hui, parce qu'il y a en effet deux phénomènes très très importants. Vous en avez tous parlé, cette bulle, cet effet perroquet, cette répétition que les nouvelles technologies ne font que qu'alimenter encore plus. Donc le champ du réel se rétrécit. Du coup, le journaliste parle à l'autre journaliste et non pas au politique. Il n'interpelle pas le politique. Franchement, hier soir, c'était la bonne illustration, à mon avis, de ça. Il n'interpelle pas tellement l'industriel. Il n'interpelle pas non plus, mettons, le patron de labo, l'idéologue, etc. Donc ça, c'est un gros problème. Deuxième question que Jean-Marc traite implicitement dans tous ses papiers, et quand on les lit à la suite, on le voit bien. Ça aussi, c'est assez peu dit pour le moment, mais c'est, je dirais, la banalisation de l'interpellation commerciale. La presse, et plus elle est gratuite d'ailleurs, plus elle se vend, en quelque sorte, une sorte de paradoxe idiot, eh bien la presse prend les mauvaises habitudes du marketing, mais en plus du mauvais marketing, du marketing des années 80-90, c'est plus tellement comme ça qu'on fait, et donc présuppose chez l'autre une demande. Et donc c'est la fameuse Madame Michu, etc. Donc les journalistes, bien souvent, sont obligés, d'ailleurs, les jeunes journalistes sont obligés à mettre en forme quelque chose. Donc on a une espèce d'esthétisation zéro, banale, des portraits, des récits, comme on dit, c'est-à-dire une sorte d'imaginaire cheap qui est aussi recyclé, c'est toujours le même, et qui l'a encore fait oublier le réel. Et ça m'a frappé dans le livre, lorsque Jean-Marc, vous parlez d'Air France. Et d'Air France, ça a été des images très chocs, très, très fortes, avec la chemise du PDG. Mais personne n'a parlé.
Des ressources humaines.
Ou des ressources humaines. Mmh. Et personne n'a parlé du vrai blessé, qui était un vigile. Et quand vous dites ça, alors là, on voit bien que c'est le réel en question qui a disparu.
Merci, Mariette Darigrand. Avant de se quitter, le clin d'œil de l'émission de Yacine Bouzard.
Bonsoir à tous. Bonsoir, Monsieur le Président.
Bonsoir, David Pujadas.
Monsieur le Président, presque jour pour jour, lorsqu'on interroge les Français, 8 sur 10, c'est inédit, estiment que ce mandat a été un échec.
Vous savez, il y a beaucoup de spectacles. Il faudrait peut-être être
plus drôle en public et peut-être plus sérieux en privé.
Parlons du moment présent. Beaucoup se demandent sans doute ce que va être cette dernière année du quinquennat. On sort d'un moment difficile.
Écoutez, moi j'ai été dans le même lycée que Clavier Junio. Donc j'ai gardé finalement une fidélité à ce comique-là. Je suis café-théâtre, si vous voulez.
Est-ce que vous avez encore la main ?
Non, moi je raconte pas des histoires à proprement parler, c'est-à-dire des histoires apprises.
Monsieur le Président, est-ce que vous avez encore assez d'autorité d'assises pour que cette dernière année ne soit pas une année pour rien, une année perdue ?
J'essaye de raconter des histoires qui me sont arrivées. Et je trouve que la réalité, même si on la raconte souvent mal, on la travestit, permet de beaucoup plus rire que la fiction. Il y a plein d'histoires drôles qu'on capte comme ça, d'histoires qui nous arrivent nous-mêmes.
Ce sera le mot de la fin. Merci,
merci à vous,
Monsieur le Président, d'avoir répondu à nos questions.
Voilà, clin d'œil, café théâtre si vous voulez, par Yacine Bouzard. Merci à tous, l'émission se termine. J'ai eu le plaisir de recevoir ce matin Marie-Ève Malouine, présidente de la chaîne parlementaire Assemblée Nationale, Laurent Bazin, journaliste, présentateur du 5-7 sur iTélé, co-auteur avec Alba Ventura, du bal des désingueurs, ce que les politiques disent vraiment, les micros fermés chez Flammarion, David Revaud-Dallonne, grand reporter au service politique du Monde, et vous avez publié Les guerres du président au Seuil, Jean-Marc Four, directeur de la rédaction de France Inter pour De la mécanique médiatique, L'Info, un service public, une coédition Le Mieux, France Inter, notre regard extérieur qui nous a accompagnés aujourd'hui, Mariette Darigrand en duplex de Mont-de-Marsan, et merci à nos confrères de France Bleu Gascogne pour avoir assuré la liaison. Dans les coulisses de l'émission, Mathias Mégy, Vincent Abouchard avec aux manettes aujourd'hui, Emmanuel Morse d'Incan, dans un instant, le journal d'Anne Fauquemberg, suivi de répliques, La Grande Guerre, une affaire de famille, Alain Finkielkraut reçoit Stéphane Audouin-Rouzeau et Stéphane Hermant, c'était le secret des sources sur France Culture, à retrouver sur franceculture.fr. Rembobinage, le journal réplique. Bonne journée sur Culture.
Quand vous regardiez le fil Twitter des journalistes, toujours passionnant, vous regardez des commentaires sur François Hollande, qui sont parfois de très bon sens, parfois de mauvaise foi, parfois de... peu importe. Et puis vous avez une part considérable de commentaires sur « Oh là là, Pujadas a pris un coup de vieux »,« Léa Salamé, ah oui, oui, elle est pugnace un peu trop, trop agressive, trop ceci, trop ça ».
Si vous voulez, la question de Léa Salamé hier soir sur « C'est une plaisanterie », c'est une question britannique. Voilà, c'est Jeremy Paxman à la BBC qui interrompt Tony Blair pendant la guerre en Irak et qui va le chercher au bout du bout du bout. Bon, c'est peut-être aussi ça qu'il faut faire, parce que si on le fait pas, quelque part, de fait, on entérine l'idée que on n'ose pas poser les vraies questions.